D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. La fonction de président de la République ne s'est probablement pas autant discréditée qu'on le dit, puisque tellement de gens concourent pour le devenir. Ce qui s'est discrédité peut-être, c'est la façon de remplir le costume. On ne peut pas dire que les deux derniers présidents de la France aient impressionné par leur prestige. La République leur survivra, elle a survécu à pire. Enfin, elle n'a pas survécu à la nullité d'Albert Lebrun, méfions-nous. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ex-président Lebrun, étant précisément en résidence surveillée dans le Tyrol autrichien, Jean Moulin, à Londres, converse avec Daniel Cordier, que j'ai d'ailleurs reçu dans Secret professionnel. Il parle de l'organisation des pouvoirs publics une fois que la guerre sera finie. C'est bien normal, il était préfet. Selon lui, il faudra renforcer l'institution. Et on ne pourra le faire qu'en y installant une personne d'une haute qualité intellectuelle. Et quel nom propose-t-il, Jean Moulin ? Paul Valéry. Ah, la bonne idée, la grande idée peut-être. Vaclav Havel a montré que les écrivains sont très capables de faire de bons présidents. On pourrait réécrire l'histoire de France en imaginant, à la place de Thiers, Victor Hugo, à la place de Deschanel, Marcel Proust, à la place de Giscard, Julien Gracq. Valéry président, cela continue à ne pas paraître aberrant au XXIe siècle. Dans mes recherches pour cette émission, j'ai trouvé un livre au titre prodigieux, paru en 2012. Il ose s'appeler Paul Valéry et la pensée managériale et organisationnelle. Si le managérial est là, Valéry est sauvé. Valéry, c'était un réticent. Il ne publiait pas beaucoup, mais il écrivait beaucoup. Il tenait des cahiers, ces fameux cahiers, qu'il considérait comme faisant partie de son œuvre. Ils ont un aspect fragmentaire qui n'est d'ailleurs pas si éloigné de certains de ses livres publiés. Quel est le secret professionnel de l'édition des cahiers de Paul Valéry? À l'occasion de la publication de leur 13e volume chez Gallimard, je reçois pour m'en parler un de ses éditeurs, William Marx. William Marx est une entreprise d'édition considérable qui est effectuée avec ses 13 volumes. Quand a-t-elle commencé?
C'est une entreprise absolument considérable qui a commencé il y a une trentaine d'années autour d'une équipe constituée autour de l'Institut des textes et manuscrits modernes qui travaillait au CNRS et à l'École normale supérieure sur les manuscrits d'auteurs, en particulier les manuscrits contemporains ou parfois plus anciens. Et donc une équipe de, comme on les appelle, les Valériens, c'est devenu quasiment une profession d'être Valérien. Une équipe de Valériens s'est constituée au début des années 80, lancée par autour de Nicole Sellerette Pietri et qui a proposé donc de faire une édition qu'on pourrait dire intégrale des cahiers de Valéry. Et j'insiste sur le terme intégrale parce que je crois que avant pour vous dire simplement les choses, le premier tome de l'édition a été mis en marche au début des années 80. Il est paru au milieu des années 80, 85, et c'est dans la collection blanche chez Gallimard. Et actuellement, le projet visait à aller jusqu'en 1914, non pas parce que les cahiers s'arrêtent en 1914, mais parce que Gallimard ne voulait pas à l'époque s'engager au-delà d'une année de cette année-là. Parce que le projet est absolument considérable. Nous allons parler, j'imagine, tout à l'heure de la taille, de la masse des documents qui est concernée.
Mais d'ailleurs, je vous interromps, William Marx, le directeur de la Pléiade passe pour ne pas beaucoup aimer Paul Valéry. Si c'est le cas, il me rappelle ce poète dont Allemand des Réaux disait Virgile n'avait pas l'honneur de lui plaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui mène à l'édition de la Pochothèque qui vient de paraître?
Je ne sais pas.
Dites-nous, William Marx, tout ce que vous savez.
Je ne veux pas rentrer dans les secrets éditoriaux de telle maison d'édition, mais l'édition de Valéry dans la Pléiade, qui est en deux tomes, est une édition qui, pour son temps, est une édition assez remarquable. Elle a été faite par Jean Itier dans les années 50, et longtemps, elle a paru comme une très bonne édition, mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans l'édition, il y a beaucoup de fautes dans l'édition, et beaucoup de textes fondamentaux, et qui sont apparus fondamentaux par la suite, se trouvent dans les notes, et puis d'autres textes sont apparus de Valéry, qui nous paraissent aussi maintenant très importants, et qu'il faudrait mettre en valeur. Et donc, effectivement, peut-être qu'il est un peu dommage que la Pléiade un peu traîner les pieds pour lancer une nouvelle édition comme ça a été fait pour d'autres auteurs. Et maintenant, c'est vrai qu'il existe, très bien faite par Michel Jarty, à la Pochothèque, une édition en trois tomes cette fois-ci, et non pas en deux tomes, qui reprend l'ensemble des textes de manière chronologique et qui va devenir, je le suppose, l'édition de référence parce qu'elle est vraiment très bien établie.
Est-ce que Valéria n'avait publié de son vivant, c'est la première chose qu'il faudrait dire.
En fait, les cahiers correspondent à une étape fondamentale dans l'histoire de Valéry. Au début des années 90, il a un peu plus de 20 ans. Il a ce qu'il a appelé rétrospectivement sa nuit de gêne ou sa crise de gêne, une crise en quelque sorte d'humilité par rapport à son maître Mallarmé, du point de vue de la poésie, une crise aussi sentimentale. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, le fait est qu'à ce moment-là, Paul Valéry, plus ou moins, abandonne la poésie, il abandonne, je dis plus ou moins parce qu'il en fait quand même un petit peu, mais il abandonne plus ou moins le projet littéraire, il ne veut plus être un écrivain, il trouve que c'est pour lui ce n'est plus ce qui l'intéresse, et il se lance dans une réflexion abstraite et qui va se faire dans ses cahiers qui sont des... Alors non pas un journal intime, mais un journal de pensée, ou plutôt je dirais même un laboratoire, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et ces cahiers, il s'y consacre tous les matins, pendant toute sa vie, hein, c'est-à-dire depuis l'âge de 20 et quelques, jusqu'à sa mort en 1945, à l'âge de 74 ans. Et chaque matin, comme il est un peu insomniaque, il se lève tôt, vers 5 heures du matin, et pendant 3-4 heures, avant que dans sa famille, tout le monde ne soit réveillé, il profite de ces petites heures calmes du matin pour faire ses cahiers. Qui sont, alors pourquoi les appelle-t-on des cahiers ? Parce qu'il utilise tout ce qui lui tombe sous la main, en particulier, ce sont des cahiers, alors soit des cahiers d'écoliers, alors là, le format a changé au cours du temps, parfois ce sont de grands registres, parfois ce sont des petits cahiers d'écoliers, parfois ce sont de tout petits cahiers, des petites brochures roses. Carnet, etc. On a un peu tout. Ça dépend des périodes. Ça dépend de ce à quoi il a affaire. Voilà. Il y en a en tout 260 environ, qui ont tous été déposés par la famille de Valéry à sa mort à la Bibliothèque nationale et qui représentent une masse de d'écriture absolument considérable, parce que et c'est là que je vais revenir peut-être sur les différentes éditions qui se sont succédées au cours du temps. Très tôt. Vous avez rappelé au début de l'émission l'importance de Valéry dans le monde intellectuel, politique, non seulement français, mais en fait européen. Et ce monde intellectuel était absolument persuadé de l'importance de cet homme, de cette pensée. Je vous rappelle, par exemple, que l'une des toutes premières personnes que le général de Gaulle a voulu, rendre visite lorsqu'il est rentré dans Paris libéré, c'est Paul Valéry.
Et en même temps, William Marx, quand le prix Nobel a envisagé Paul Valéry, on l'a trouvé un peu trop intelligent.
On l'a trouvé un peu trop intelligent, un peu trop hermétique, et ce qui fait que le prix Nobel, conscient de la valeur de l'œuvre, mais quand même trouvant que c'était, dans les années 30, trouvant que c'était une œuvre trop hermétique et ne correspondant pas à l'aspect populaire du prix Nobel, a refusé pendant très longtemps de lui donner le prix, sauf en 1945, où finalement l'unanimité s'est faite dans le jury de l'Académie suédoise, et en 1945, au début de l'été, ils ont décidé, ça y est, cette année, c'est l'année Valéry, et malheureusement, manque de peau pour Valéry, et pour le prix Nobel aussi, je crois, Valéry est mort en juillet 1945, et donc n'a pas pu avoir ce prix Nobel. Et
donc, est-ce que Valéry, de son vivant, avait publié ou considéré la publication
oui,
de ce carnet ?
Oui, tout à fait. Dès les années 1900, Valéry a le sentiment qu'il y a là quelque chose de très important qui se fait, que c'est en fait son œuvre la plus importante, toutes ses réflexions. Le projet principal qu'il a, mais qu'il ne sera jamais totalement mis en œuvre, va consister à classer l'ensemble des réflexions qui se trouvent dans les cahiers. Donc Valéry relit régulièrement ses cahiers, il prend des notes, il recopie les fragments lui-même sur des feuilles, il les classe thématiquement sur des feuilles volantes, il fait des classements, parce qu'il a le projet de proposer enfin au public ce qu'il pensait être son système, avec un grand S qui est un système de relations entre le corps, l'esprit, le monde, etc. Bon, et puis il se rend compte, enfin, ce projet ne cessera de l'habiter tout au long de son existence. Au fil de sa carrière, néanmoins, il a parfois l'opportunité de publier ici ou là des extraits des cahiers. Et donc, par exemple, dans les années 20, alors qu'il est très demandé par les éditeurs pour faire des éditions qui sont demandées par les recherchées par les sélectionneurs, il publie un cahier de 1910 qu'il appelle le cahier B dans la série alphabétique de l'époque, A, B, C, D, etc. Donc, et qui est publié sous le nom cahier B 1910. Donc, il y a parfois des cahiers... C'est une édition de luxe à l'origine, qui a été ensuite reprise dans l'édition de la Pléiade ou bien dans l'édition de la Pochothèque actuellement. Bon... Donc ça, c'est un cahier entier. C'est un tout petit cahier sur les 260. C'est vraiment un tout petit cahier. Et puis, les cahiers, en fait, il en fait aussi des recueils de fragments qui paraissent dans les années 20 et les années 30 et qui ont été réunis sous le titre général de Tel quel. Tel quel est fait de fragments extraits des cahiers, mais c'est un choix des fragments les plus lisibles, les plus rhétoriquement acceptables par le le public et qui sont effectivement d'une lecture extrêmement agréable et qui ont beaucoup fait du reste pour le renom de Valéry en tant que penseur, en tant qu'aphoriste si je puis dire, et les fragments de Tel-Quel ont donné beaucoup de fil à retordre aux hippocagniers, aux cagneux, parce qu'ils ont beaucoup servi dans les dissertations pour l'entrée à l'école normale supérieure.
Et puis il y a eu des éditions posthumes et thématiques, non, l'Ego Scriptor en poésie Gallimard. Et...
Alors ça c'est bien postérieur. C'est... Alors je reviens, si vous voulez, à la phase juste après la mort de Valéry. Valéry a un très grand renom et très tôt, sous l'impulsion de la famille de Valéry, mais le CNRS, qui est une jeune institution à l'époque, décide de sauvegarder ce trésor de la pensée nationale que sont les cahiers. Et donc, dans les années 50, une extraordinaire édition en facsimilé est lancée, qui est un énorme projet, hein, qui consiste à photographier tous les cahiers, tous les fragments, et à les recomposer sur les pages. Et cette édition, qui a longtemps été la seule édition disponible, est une édition donc en facsimilé. Comme l'écriture de Valéry est relativement lisible, c'est une édition qui est très agréable à regarder. Les dessins ont été reproduits parce que dans les cahiers, il y a énormément de dessins, de schémas en particulier.
Il faut dire d'ailleurs que dans votre édition, là pour laquelle je vous invite, William Marc, il y a un cahier central avec une reproduction de l'écriture de Valéry et de quelques dessins.
Tout à fait, nous y tenons. Il est très important de donner à voir au lecteur la page du cahier telle qu'elle est et les dessins quand il y en a. Mais les dessins se multiplient en plus dans les années 20, les années 30. Il y a même des aquarelles qui sont d'une beauté à couper le souffle. Il faut le dire. Et donc bref, le CNRS fait cette édition qui, avec les moyens du bord, qui quand on voit le résultat maintenant, est incroyable, qui est une édition en 29 volumes, énorme, hein, chacun. Ce sont des in quarto. Chaque volume fait 900 pages. Et donc, vous avez en fait 26 000 pages de cahiers absolument magnifiques, hein, qui a été édité en 1000 exemplaires. Et donc, quand on a la chance, on peut les
consulter. Vous en possédez un?
J'ai la chance d'en posséder un en tant que Valérien professionnel. C'est la moindre des choses. Mais sinon, on peut les consulter dans les bibliothèques. Toutes les grandes bibliothèques ont cet exemplaire-là dans le monde entier. Je vous invite à y aller voir ce qu'ils peuvent. C'est absolument extraordinaire, ce travail qui a été fait. Et alors, avec, malheureusement, donc c'est une édition qui a l'air intégrale et facsimilée, mais en fait, qui ne l'est pas. Parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, en fait, les pages ont été entièrement recomposées parce qu'il fallait les adapter au quarto. Et par ailleurs, dans le travail qui a été fait de recomposition des fragments, parfois certains fragments ont été déplacés, oubliés, donc il y a beaucoup d'aberrations qui sont là-dedans. Et puis, il y a eu un peu de censure qui a été exercée sur les fragments qui étaient les plus intimes ou qui pouvaient être en rapport avec la vie amoureuse de Valéry qui a été un petit peu compliquée dans les années 20 et les années 30. Parce que certains de ces cahiers, beaucoup de ces cahiers par exemple, ont été relus par dans les années 20 par la maîtresse du moment de Valéry qui était Catherine Pozzi. Et donc on trouve dans les cahiers même, dans les cahiers par exemple du tome 13 que nous avons édité, on trouve des annotations de Catherine Pozzi, hein, voilà, à qui Valéry confiait ses cahiers parce qu'il voulait avoir une...
Et donc après ce facsimilé ?
Alors après ce facsimilé, qui est un faux facsimilé en quelque sorte, il y a eu la très belle édition qui a été faite par Judith Robinson, qui était une universitaire australienne. Judith Robinson Valéry maintenant, puisqu'elle a épousé, enfin elle est décédée maintenant, mais elle avait épousé un fils de Paul Valéry par la suite, et qui est une édition qui est parue en deux tomes dans la Pléiade, mais qui n'est qu'une anthologie de fragments dans la Pléiade, suivant les thèmes, certains des thèmes que Valéry avait lui-même, auxquels Valéry avait lui-même réfléchi pour organiser ses cahiers. Mais cette édition en deux tomes, qui fait plus de 2000 pages, qui est une très belle édition, ne reprend que les fragments les plus lisibles et surtout, elle ne correspond à peu près qu'à 10% total de l'ensemble des cahiers. Et donc, il y a tout l'arbitraire d'un choix, d'un fragment, on ne peut pas comprendre. Cette édition a beaucoup fait pour le renom des cahiers et beaucoup de gens, pour le coup, disposent de cette édition qui est toujours là, qui est toujours très intéressante. Mais c'est une édition qui est filtrée par un éditeur et ce n'est pas une édition intégrale, loin de là.
Et donc il y a eu, pour finir cette première partie, des éditions thématiques dans les années 80, comme ça.
En fait, on a repris dans certaines éditions, on a repris les fragments anthologiques qui avaient été faits par Judith Robinson et qui ont été réédités en livre de poche. Donc, Ego Scriptor relève de ce type de choix.
Alors, votre édition chez Gallimard, ce 13e volume, qu'est-ce que c'est? C'est une édition diplomatique? C'est une édition...
Donc intégrale d'abord, c'est-à-dire que cette fois-ci,
ça vous l'avez dit,
on reprend l'ensemble des textes, même ceux qui ont été censurés par le facsimilé, et on le fait sur les cahiers originaux, hein, d'une part. Et donc l'idée, c'est, alors ce n'est pas une édition diplomatique, hein, l'idée c'est de reproduire, de transcrire le texte de la manière la plus lisible possible, de respecter plus ou moins dans les possibilités qui nous sont données dans une collection aussi prestigieuse et avec une telle grande tradition qu'est la collection blanche de Gallimard, de respecter plus ou moins le format du texte. Par exemple, quand le texte est présenté sur deux colonnes, on essaie d'avoir les deux colonnes sur
Mais vous adoptez aussi les doubles ou triple soulignement de Valérie.
Voilà, on a un certain type de code, hein, pour respecter, pour transcrire ces soulignements, mais ça reste une édition qui est extrêmement lisible. On essaie aussi de respecter la ponctuation parfois particulière de Valérie, qui utilise, au lieu des trois points, il fait deux points, hein, très souvent, donc on fait des alternances entre deux points et trois points suivant.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces deux points, d'après vous?
Alors, les deux points signifient peut-être que c'est pas
les deux points, hein, il a expliqué que ça, il ne s'agit pas des...
Non, ce sont des deux points vraiment à la suite et pas l'un au-dessus de l'autre. Voilà. C'est comme si au lieu de la 3x3 points, on n'en avait que deux. Je pense que Valérie se méfiait du 3 points, qui avait un côté un peu symboliste, pensée qui va dans le vague, fantaisiste, etc. Or, Valérie déteste cela. Donc, pour lui, le 2 points, c'est l'équivalent du 3 points, mais sans la fantaisie, je dirais, sans l'imagination. C'est un côté plus technique, en quelque sorte, plus sec.
Nous allons maintenant entendre Julien Quin, le fameux administrateur général de la Bibliothèque nationale, parler des cahiers de Valérie. C'est à propos d'une exposition sur l'homme de lettres, dans un entretien à la chaîne parisienne le 14 mars 1956, puis Agathe Roire Valérie dans un livre des voix du 21 février 1980.
L'exposition que nous avons faite, elle voulait être une explication en même temps qu'un bilan, nous apportant cet ensemble inconnu. Les cahiers. Les cahiers, au nombre de plus de 250, écrits de sa main naturellement, de 1895 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 50 ans, ça n'est pas un journal, il n'a jamais voulu tenir un journal, mais ce sont les détails, c'est le détail de ses recherches pendant toutes ces années, la réponse ou l'approfondissement de certaines questions, la réponse à questions qu'il se posait, l'approfondissement de ces questions elles-mêmes.
Dans ces cahiers, il y a d'innombrables poèmes en prose. Dans ces moments poétiques qu'il a quelquefois groupés sous le nom de poésie brute, il y a là une espèce de jaillissement, de spontanéité, d'instant poétique extraordinaire. Et j'envisage d'ailleurs toujours d'en faire un volume, parce que ce sera très saisissant.
Que reste-t-il comme milliers, comme dizaines de milliers peut-être de pages de Paul Valéry à publier?
Eh bien, toutes celles qui n'ont paru que dans l'édition photographique du CNRS.
William Max, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'édition et de l'espèce d'héroïsme qu'il y a dans l'édition des cahiers de Valérie. Je voudrais qu'on vienne plus particulièrement à ce cahier-ci qui couvre, vous allez nous dire plus exactement, mais en gros, l'année 14 et le début de l'année 15. Vous parliez tout à l'heure de fragments intimes et de vie amoureuse. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a malgré tout assez peu de vie intime et assez peu d'éléments très personnels de Valérie qu'on peut connaître d'autre part par le journal de Léoto qui nous raconte que par exemple il pouvait être très grossier, ou le journal d'Henri de Régnier qui nous raconte qu'il pouvait être un débineur en chef et qui détestait tout le monde. Ça n'est pas dans ces cahiers-là. Et lui-même dans cette édition-ci oppose de manière très frappante ce qu'il appelle le style du moi, à quoi il rattache évidemment Rimbaud et des gens comme ça, et le style de la pensée, et sans se mentionner évidemment on pense bien qu'il s'agit de lui. Donc en quoi est-ce vous avez employé l'expression « journal d'une pensée » tout à l'heure. En quoi ce journal-ci, et en particulier à cause de l'année de publication qui est l'année de la guerre, a une spécificité qui le rapprocherait plus ou moins de son intimité?
L'intérêt d'une édition intégrale comme nous l'avons faite, une édition chronologique, c'est de voir aussi les variations d'écriture, de régime d'écriture de Valérie au fil des ans. Et ce qu'on voit dans ces cahiers-ci, c'est bizarrement, étonnamment, étant donné la situation du pays à ce moment-là et le trouble profond dans lequel se trouve Valérie à cause de l'entrée en guerre de la France, c'est un retour très fort à l'abstraction. Et on comprend là mieux le fonctionnement de l'esprit de Valérie. Valérie, effectivement, met très peu d'intime dans ses cahiers, même s'il y en a un petit peu, hein, un tout petit peu, on peut le lire.
Pas beaucoup, hein.
On peut le lire entre les lignes. Il y en aura beaucoup plus dans les années 20, les années 30. Hein.
Ah oui?
Oui, énormément plus. Hein. Les cahiers changent vraiment d'aspect à ce moment-là. Mais au milieu des années 10, il y a encore une réflexion très abstraite, mais la réflexion devient encore plus abstraite au moment de l'entrée en guerre. Et on comprend là que Valéry, ici, essaie de dresser une sorte, on pourrait dire, une sorte de digue d'hyper-rationalité contre ces sentiments, ce trouble, ces perturbations du pays et de lui-même hein, qu'il ressent à ce moment-là. Donc on voit ici comment la rationalité devient pour Valéry une sorte de moyen de protection contre un moi qui pourrait être un moi envahissant. Valéry se méfie, il le dit plusieurs fois, il se méfie du moi en tant qu'il pourrait être troublé par les émotions, par les passions, du moi individuel. Et ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut ici se replonger dans des réflexions les plus abstraites et les plus générales possibles sur le temps, sur le rythme, sur le rêve, pour essayer d'oublier en quelque sorte la guerre.
Oui, il est très il y a très peu vraiment de mentions sur la guerre en tant que telle dans ses cahiers. Et il est assez frappant de voir que si on compare à quelqu'un qui a pu avoir une certaine influence sur lui en ce qu'il a exprimé l'idée de dissociation d'idées qui était Gourmont, et alors que Gourmont, lui, en 14, se précipite, quoique avec réticence, vers la pensée de guerre, quelqu'un qui a à peu près la même forme d'esprit qu'est Valéry, lui, se retire.
Il ne se retire pas. C'est le cahier donne l'impression qu'il se retire, mais il faut... Valéry ne cesse de penser à la guerre. On a des échos de la guerre très précis. Par exemple, quand il parle, même dans une réflexion un peu générale sur la façon dont les nouvelles évoluent, dont les généraux parlent de l'avancée du front sur un avion qui a été abattu, tout cela apparaît dans la guerre, mais dans les cahiers. Mais néanmoins, il y a un passage hein, qui est absolument fondamental dans ces cahiers, qui est un passage où Valéry se trouve à ce moment-là dans le sud-ouest de la France, sur la côte, et puis il apprend que apparemment Paris aurait été investi par les Allemands. C'est une fausse nouvelle, c'est une rumeur, mais il pense que ça y est, le pays est tombé. Et à ce moment-là, il a un moment de désespoir absolu. Il s'approche de la mer et il entend cette rumeur. Et il a des pages qu'il faudrait lire ici, mais qui sont absolument admirables hein, sur son désarroi face à ce qui se passe. Or, ces pages-là, en fait, vont être le germe du grand poème auquel il travaillait auparavant et dont il a arrêté la rédaction à ce moment-là, mais qu'il reprendra ensuite, qui est La Jeune Parc. Et donc, ces pages sur les vagues qui vont et viennent et qui correspondent à son trouble intérieur, en fait, ça va donner le début même de La Jeune Parc. Et il est conscient qu'il a quelque chose qui se passe, parce qu'ensuite, il dit que, voilà, il y a un vers ensuite qui est né en lui, et il est né en lui par distraction, précisément à cause de la guerre. Donc, en fait, il faut vraiment regarder très attentivement ces cahiers et voir comment il y a, en fait, un moi, une émotion extrêmement forte, mais qui est sans cesse... Qui n'affleure qu'à la surface.
En même temps, à côté de ça, il ne faisait pas ni comme Gourmont, ni Dieu sait comme Barrès, ni comme tant d'autres, il n'écrivait pas dans les journaux sur la guerre pour la guerre. Donc c'est vraiment...
Il n'avait pas à cette époque-là
la notoriété,
notoriété d'un Rémy de Gourmont.
Bien sûr. Alors, ce qui est très frappant dans ce que vous avez dit tout à l'heure et qui me paraît très marquant dans ce volume en particulier, comme dans le reste de la pensée de Valéry, c'est sa méfiance des mots. Il passe son temps dans ce volume à se méfier des mots, ce qui est enchanteur car l'idée de l'écrivain amoureux des mots est un lieu commun qui me semble particulièrement faux. On comprend qu'il y ait une édition posthume de ces cahiers qui se soit appelée, je ne sais pas qui avait donné le titre, Les principes d'anarchie pure et appliquée.
C'est un cahier à part, qui est en dehors de la série même des cahiers.
Et le titre était de lui ?
Le titre est lui, oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, il y a un côté philosophe analytique hein, chez Valéry, c'est-à-dire que il prend les mots dont nous avons l'usage tous les jours et il les déconstruit. Il montre qu'ils ne correspondent pas à une réalité. Et pour lui, la tâche du philosophe est aussi la tâche du poète, c'est-à-dire que le poète aussi doit essayer de dire quelque chose en essayant de déconstruire le sens qui est le sens habituel des mots. Il y a vraiment un rapport ici entre le travail de Valéry philosophe analytique et le travail de Valéry poète.
Il y a des condensations de pensée admirables dans ces volumes. Je voudrais citer, par exemple, une phrase qui n'est peut-être même pas à commenter, mais une parmi tant d'autres, qui est « Plus rare est l'individu, plus il meurt ».
Oui. En fait, plus on lit ses cahiers, plus on se sent devenir intelligent. Et donc, c'est valable pour tous, c'est aussi valable pour les philosophes. Je pense que c'est une bonne recommandation pour eux, mais ils le font. Les philosophes sont parmi les meilleurs lecteurs des cahiers.
Ah oui ?
Oui, déjà, oui, tout à fait.
Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de... pascalien dans ses cahiers, précisément à cause de la condensation de la pensée. Je ne parle pas du tout de l'esprit religieux, naturellement.
Non, au contraire, parce que Valéry est très très anti-religieux. Il y a des critiques de Dieu, en particulier dans ses cahiers, qui sont assez assez impressionnantes. Non, il y a en fait, et c'est pour ça que Valéry s'est longtemps opposé à Pascal. Il y a un à la fois une pensée extrêmement acérée et en même temps un sens aigu de la rhétorique. Parce que les moindres fragments sont extraordinairement écrits et quand on les lit à haute voix, on se rend compte combien ces fragments ne sont pas un premier jet. En fait, il est très possible, on en a la preuve, en fait, que dans les cahiers, Valéry n'écrivait pas au fil de la plume. Il réfléchissait longtemps avant d'écrire et il y avait même sans doute des brouillons de ce qui est dans les cahiers.
Comment peut-on le savoir? Ça, c'est
on le sait parce qu'on en a.
On le sait.
On le sait parce que on en a la preuve dans certains cahiers précédents, réellement, et parce qu'on a parfois récupéré certains brouillons. Donc, en fait, les cahiers ne sont pas un premier jet.
En même temps, il y a quelque chose. Vous parliez d'atelier tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose de très appliqué dans le bon sens du terme et parfois, disons-le, un peu fastidieux, c'est-à-dire que Valéry s'applique à étudier des matières qui ne sont pas nécessairement du premier abord pour un écrivain. Il y a beaucoup de mathématiques, par exemple.
Bah, Valéry voulait être mathématicien, il n'avait malheureusement pas le niveau. Mais donc, il fait des schémas. Pour lui, les mathématiques sont aussi une manière de modéliser notre pensée. Mais comme je l'ai dit, la pensée abstraite est aussi... Elle intéresse Valéry en tant que telle parce qu'il veut faire une œuvre en quelque sorte il veut repenser notre rapport au monde, mais en même temps, c'est aussi pour lui une défense émotionnelle. Et quand on comprend cela, eh bien, on comprend bien ce qui est le sens même du projet Valéry, en particulier dans ses cahiers qui sont quand même, malgré l'apparence, des cahiers de guerre.
Est-ce que des mathématiciens ont relu ou ont écrit sur ces cahiers et sur la pensée mathématique de Valéry?
Tout à fait. Alors,
ils en disent quoi?
Du reste, l'équipe qui a édité ces cahiers, que j'ai eu l'honneur de diriger, est une équipe pluridisciplinaire, avec notamment des mathématiciens, des médecins, etc. Et nous demandons à des mathématiciens, des physiciens, d'interpréter certaines équations qui sont des équations tout à fait réelles, par exemple qui correspondent à le degré de dégradation du radium au fil du temps. Par exemple, Valéry, dans les années précédentes, s'était intéressé à un problème mathématique très célèbre, qui est le problème des quatre couleurs. Pourquoi n'a-t-on besoin que de quatre couleurs pour faire une carte géographique en faisant en sorte qu'aucun pays n'ait la même couleur que son voisin? C'est un problème qui n'a été réglé par l'ordinateur que dans les années 70. Mais Valéry, déjà, s'y était essayé.
Pour vous, le secret professionnel de ces cahiers, du point de vue de Valéry, William Marx, qu'est-ce que c'est? C'est l'élévation d'une digue abstraite contre l'invasion de l'intime?
C'est un monument de la pensée, moi je dirais. C'est une source de réflexion pour tous, dans tous les domaines, la psychologie, la littérature, la politique, la sociologie, la physique, etc. Et alors, ils vont dans tous les sens, ces réflexions, parce que Valéry se relie, il se contredit, etc. Mais je crois qu'il y a ici une sorte de laboratoire pour l'auteur, mais aussi un laboratoire pour le lecteur qui ne peut que se replonger en lui-même et se lancer dans les pistes de réflexion qui ont été élaborées par Valéry.
Pour finir, William Marx, je voudrais citer un passage des cahiers qui me paraît essentiel dans les temps où nous vivons, et le voici. « J'écris pour les hommes qui sont seuls et qui ont le pouvoir de se sentir seuls. Je me sens avec eux, c'est être seul, c'est-à-dire qu'ils n'attachent pas d'importance à ce qui compte que s'il en est au moins deux, et précisément parce que l'on est deux ou plus de deux. » C'était Secret professionnel, le 222e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Amgral, prise de son Pascal Bénard, recherche Ina Aude Vassan. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.